La relation avec l'animal fait miroir avec l'être humain, et du coup elle interroge notre identité, qui nous sommes. Et vous avez entendu ce texte de la création dans Genèse, on l'entend pas souvent. Il n'est pas bon pour l'humain d'être seul, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée, dit Dieu. Et l'aide, c'est Ézer. C'est un mot qui est souvent utilisé pour parler de l'aide qui vient de Dieu, et cela signifie aussi vis-à-vis. Et alors, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme une création ratée, cette histoire. Parce que Dieu, il modèle du sol, les bêtes des champs et les oiseaux. Alors, il les amène vers l'être humain, et en fait, Dieu est curieux, parce qu'il voudrait savoir comment les hommes les nomment, leur donnent un nom. Finalement, c'est ça, la première souveraineté de l'être humain, c'est de donner un nom. Cela tisse une communauté de vie sur la terre, une communauté de vie dont on se rend vraiment compte de l'importance aujourd'hui. Mais ce n'est pas le but premier de combler un peu la solitude de l'homme. Alors ça va quand même nous faire réfléchir sur le fait que les animaux, ils sont quand même beaucoup avec nous, même si dans les villes aujourd'hui on en a très très peu. À l'époque, il y en avait beaucoup qui étaient des aides pour les humains. Il faut attendre la venue d'un autre être humain pour que l'homme et la femme deviennent des vis-à-vis l'un pour l'autre. Et pourquoi est-ce que finalement on a tôt fait d'ignorer le monde animal? C'est parce que le monde animal est complètement autonome et indépendant. On le voit dans le livre de Job. Job parle de la diversité des bêtes sauvages et cette diversité est source d'émerveillement. Cette description a pour but de reconnaître à Dieu son rôle de créateur. Mais, comme je l'ai dit en entrée de ce culte, les animaux ne sont pas nos dieux et nous non plus, nous ne sommes pas les dieux des animaux. Chacun doit rester à sa place. Mais en étant loin des animaux comme aujourd'hui dans nos villes, nous oublions notre responsabilité vis-à-vis de la création que Dieu nous confie. Nous en sommes pourtant les gérants, comme il est dit dans le chapitre un peu au-dessus. Et quand on regarde les textes bibliques dans l'Ancien Testament, le sort des animaux et des humains sont très très souvent liés. Par exemple, quand il y a destruction ou restauration du peuple. On parle du peuple et des animaux, des peuples et bêtes. La relation à l'animal a été utilitaire très longtemps pour l'être humain, notamment dans deux domaines. Tout d'abord, pour prolonger la force humaine, comme le bœuf qui était attelé à la charrue, ou le cheval pour porter de lourdes charges. Mais la Bible nous dit que cela n'empêche pas de les respecter. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit? Le bœuf et l'âne doivent aussi se reposer le jour du sabbat. Donc, vous voyez, si le bœuf et l'âne doivent se reposer le jour du sabbat, à combien plus forte raison l'être humain doit se reposer aussi. Et puis, l'animal a droit à une part du produit de son travail. Tu ne muselleras pas le bœuf, c'est-à-dire tu lui bloqueras pas la bouche, le bœuf qui foule le grain, parce que le bœuf, on le mettait en rond pour écraser le grain. Et d'une même manière générale, les animaux bénéficient d'une même protection que les pauvres, les faibles et les étrangers. Et puis l'autre domaine est bien sûr un domaine connu dans l'Ancien Testament, celui de la relation à Dieu qui repose sur les sacrifices. Ça n'était pas unique au peuple d'Israël, tous les peuples dans les environnants pratiquaient les sacrifices d'animaux, c'était usuel. Mais cette relation à Dieu par les sacrifices va s'arrêter avec Jésus-Christ. L'évangile de Dieu dira de Jésus: il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau, ça va être une image pour parler de Jésus. Et à partir de lui, il n'y aura plus du tout de sacrifice. Alors, je me suis posé la question finalement, quelle a été la relation de Jésus avec les animaux? On se souvient qu'il est monté sur le petit âne, au rameau. Et il a sûrement été un grand observateur de la nature, des oiseaux, des animaux qui étaient dans l'environnement de l'homme. Et nous avons entendu ce passage qui cite les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Là, il y a une gratuité de Dieu envers sa création. Jésus nous rappelle que Dieu a donné ce cadre pour que la vie puisse exister. Jésus rappelle l'importance de chaque être vivant. Évidemment, ce cadre, j'en parlerai dimanche prochain, où je vais continuer sur la création de manière plus large. Nous l'abîmons, il y a des animaux qui ne peuvent même plus se nourrir, parce que, voilà, il y a trop de destruction de leur habitat. Dans Matthieu, Jésus dit « Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant, pas un ne tombe à terre sans que le Père le sache. » C'est quand même quelque chose de se dire « Dieu est au courant de toute la vie sur terre. » Mais Jésus continue et il va plus loin. Et il dit « Mais combien plus valez-vous que les oiseaux ?» Il remet l'être humain au centre. Dans un autre passage, Jésus alerte ses interlocuteurs sur leur radicalité de leur respect au sabbat. « Qui d'entre vous a un mouton ? Et si le mouton tombe dans un trou ?» Le jour du sabbat, ben vous irez le prendre et le chercher et le sauver. Or, combien l'être humain l'emporte sur le mouton ? Alors nous valons plus aux yeux de Dieu, mais nous avons plus de responsabilités. Les deux vont ensemble. Les animaux sont des créatures de Dieu, ils sont englobés dans l'alliance de Dieu. Ça, les enfants le verront avec Sylvia et l'arche de Noé. Dieu a béni les animaux avant les êtres humains. Mais l'être humain vaut plus que les animaux car il est un vis-à-vis privilégié avec Dieu. Il a reçu le don de la parole, il est capable de nommer, d'élaborer des pensées, de réfléchir dans sa conscience. Et du coup, le fait de penser, eh bien, ça va pouvoir réfréner les pulsions qui sont en lui, qu'on pourrait dire des pulsions animales. Notamment par l'éducation. C'est vrai que si l'être humain vient de l'animal, c'est qu'il y a une partie en nous qui est animale. Et c'est quoi la loi des animaux ? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la loi des animaux ? C'est la loi du plus fort. Ben oui, c'est une loi de violence, une loi de cruauté, parce qu'il faut survivre. Les animaux ne se font pas de cadeaux quand ils doivent manger et subsister. Alors on voit partout dans le monde que l'être humain doit faire beaucoup d'efforts pour aller contre cette loi du plus fort en lui. Il est capable de cruauté aussi, et la différence des animaux, c'est que lui, il n'a pas besoin de ça pour survivre. D'un autre côté, l'être humain est aussi un être qui est capable de prendre soin des plus faibles, des plus fragiles, de ceux qu'on considère comme inutiles à la société. Et c'est en cela qu'il s'humanise. Alors oui, la relation aux animaux nécessite de garder toujours un équilibre. Notre attention à eux ne doit pas faire oublier l'attention aux êtres humains délaissés et oubliés. Mais j'aimerais terminer en disant que la beauté des créatures de Dieu et leur diversité est époustouflante. La diversité de leur fonctionnement sur la terre, dans les airs ou dans les eaux, la capacité d'adaptation est étonnante. Je me dis que Dieu est l'inventeur le plus extraordinaire de tous les temps. Alors, prenons le temps de les admirer, de les découvrir. Que cette beauté et cette diversité nous permettent de les respecter d'autant plus et que cela soit un sujet supplémentaire de notre louange à Dieu. Amen.